Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver comme chaque week-end pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. On va passer cette prochaine heure ensemble et réécouter des extraits des temps forts de cette semaine. Et on commence tout de suite avec le Loft Music. Jeudi, Yvan Cujus recevait Francis Cabrel pour la sortie de son nouvel album À l'aube revenant. L'occasion de se prêter au jeu du fameux quiz musical en l'honneur du chanteur. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Allez, je vous ai fait assez languir. Je vous fais un petit quiz. L'idée du quiz que j'ai eue, c'est de prendre deux mélodies de Francis Cabrel, mais d'y mettre des paroles de Georges Brassens. Bon, ça colle un peu comme ça peut des fois, mais c'est pas très grave. Et l'idée, donc, c'est de deviner de quelle chanson de Brassens sur des musiques de Cabrel il s'agit. Voilà. Alors, il y a un buzzer de chaque côté, chez Francis et chez Jean, et on va voir. Aurélie, tu fais l'arbitre, d'accord? On fait comme ça. À moins que tu joues aussi, hein. Mais
non, Francis, moi j'arbitre, je veux bien arbitrer. Allez, j'ai toujours rêvé de faire ça.
Oui, mais je t'imagine. Ouais. Allez, on y va. Il y a un peu de rêve, c'est pas grave. Bon, alors la chanson. Attends, je le fais parce que.
En direct.
Eh oui. Donc, ça, c'est sur cette chanson.
Une manie de vieux garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson.
C'est pas si simple, hein.
Continue, j'ai buzzé, hein.
Attends, buzzé, oui. Alors attends, je te vois pas. Tu as buzzé, et donc tu as la réponse, Jean.
Ouais, c'est l'inénarrable Fernande.
Mais oui, bravo, un point pour Jean.
Et je vous entends plus beaucoup, les amis.
Moi, j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson.
Ah, voilà. Mais ça fait 1-0. Francis, tu l'avais pas reconnu, tu l'avais pas, Francis?
Non, mais la musique m'a vachement plu.
Mais c'est parce qu'il est gentil, ça. C'est parce qu'il est bon joueur. C'est un papa bon joueur.
Ouais, t'es un papa bon joueur.
Ouais.
Alors, c'est le signe.
C'est vrai que c'est un peu lointain maintenant.
Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. Psst, psst, psst,
psst. Qui c'est qui a buzzé? Qui c'est qui a buzzé?
C'est Jean.
Encore
qui a buzzé.
Jean.
Je suis un gros buzzer. Ouais.
Oui, d'accord, on a compris. Oui.
Je t'entends pas, Yvan. Je t'entendais à peine.
Oui.
Il n'y a pas d'amour heureux, c'est Aragon.
Elle ressemble bon, écoute, à ces soldats sans armes.
Texte d'Aragon. Texte d'Aragon sur une musique de Brassens. Vous avez tous les deux. Francis. Oh, on voit le plafond de chez Francis. Vous avez tout.
Mais oui, parce que on entend beaucoup moins le retour émission, là.
Ah oui, tout
ouais,
d'un coup.
Moi, j'entends bien Francis, mais je t'entends plus à toi, Yvan.
Ah, c'est vrai, tu m'entends pas, Jean, là? Est-ce que tu m'entends? Il y a peut-être un problème de connexion.
Depuis que tu joues du piano, on ne t'entend plus.
Ouais. Ah ben ouais, tu vois, c'est un truc qui me vaut du mal.
Beethoven faisait pareil.
Comment? Mais quoi? Qu'est-ce que t'as dit, Jean? Je n'entends plus. Après, c'est le bazar, on ne s'entend plus. C'est n'importe quoi.
Ton ouais. Micro.
Mais c'est pas grave. Pourtant, je suis face au micro. Et je disais que vous aviez Brassens en commun, tous les deux. Parce que Jean pratique, si je puis dire, Brassens dans l'affaire Brassens, sur scène. Et puis, Francis chante Brassens aussi. Vous avez vraiment cette passion? On peut parler de passion tous les deux pour Brassens?
Alors, pour ma part, je parle en premier parce que je sais que Jean, si tu veux, c'est le grand spécialiste de Brassens. Oui. Donc, moi, si tu veux, je suis devenu admiratif parce que c'est en français, puisque je n'écoutais que de la musique anglaise quand j'avais l'âge de ma fille, par exemple, même à partir de 17-18 ans. Oui. Et le premier qui m'a ému avec des textes en français, toi, qui m'a touché, qui a dit des choses qui me faisaient rire et que je trouvais très poétique, justement, c'était Georges Brassens.
Ouais. Ouais. Et toi, Jean, au point de
Brassens,
faire...
je l'ai rencontré plus jeune que Francis. J'ai rencontré en même temps que les Beatles et les Stones, c'était dans les années 60, j'avais 14-15 ans, et je découvrais en même temps les musiciens anglais. Et Georges Brassens et Jacques Brel, c'était comme ça, j'étais un peu schizophrène, parce que la plupart de mes copains, ils aimaient soit l'un, soit l'autre, et moi j'aimais les deux genres. Et donc on a monté, j'ai joué 3 spectacles sur Brassens, le dernier qui date déjà d'une dizaine d'années, qui continue, s'appelle l'affaire Brassens, et on a chanté une chanson d'autrefois avec Francis.
Oui, oui, oui.
Chanté
oui.
La princesse et le croque-note sur scène mm-hmm. et sur un album.
Mm-hmm. Aurélie Cabrel, alors cette aventure de Babou Musique qui part d'Astafort aussi.
Je Dis-moi, pensais que tu allais me demander si j'aimais Brassens aussi.
Alors oui, mais bien sûr que je le demande aussi. Mais tu ne vas pas me dire non. Attends, rassure-moi.
Oulala, attention, Yvan.
Ah, c'est vrai ? Oui, là, il y a un dossier, non. là. Il y a un dossier non. familial, là.
Non, je reconnais totalement le talent, évidemment, de ce grand homme.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Yvan Cujus et ses invités, rendez-vous de 20h à 21h en direct dans le Loft Music. Ne bougez pas, on va revenir dans un instant avec Philippe Rossier et toute l'équipe des Vraies Voix qui ont débattu sur la candidature du général de Villiers au présidentiel. Et avec l'invité de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Minibus, le journaliste, réalisateur et producteur François Saltiel. Restez avec nous sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Comme tous les week-ends, c'est un plaisir de réécouter avec vous des extraits des émissions marquantes de cette semaine, comme lundi dans Les Vraies Voix. Lors de leur traditionnel duel, Philippe Rossier et ses chroniqueurs, face à notre auditeur Alain, ont donné leur avis sur la candidature du général de Villiers aux prochaines élections présidentielles. Et comme vous allez l'entendre, ils n'étaient pas du tout d'accord.
Garde à vous ! À vos ordres, mon général !
Une dictature militaire n'est pas souhaitable dans notre pays.
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair.
Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs ?
J'appelle ça la France, mademoiselle.
Les Vraies Voix Sud Radio.
Eh oui, un général à la tête de l'État, pourquoi pas? En tout cas, 20% des Français se disent prêts à voter pour le général de Villiers en 2022. Le général, hein, vous l'avez vu, hein, qui enchaîne interview sur interview en ce moment. Voilà ce qu'il dit, hein, parce qu'il dit à peu près la même chose dans toutes les interviews.
Ah oui.
Le pays a besoin d'ordre, les Français veulent de l'autorité. Il faut remettre de l'autorité dans le pays, je crains la guerre civile, voilà ce qu'il dit. Le général critiqué par le Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen qui se méfie. Hein. Tiens, écoutez ce que dit, non pas Marine Le Pen, mais le général de Villiers sur Marine Le Pen, c'était fin octobre, écoutez.
Je pense que Marine Le Pen a fait les bons constats, parfois, sur un certain nombre de sujets qui finalement se sont trouvés cadenassés, comme le patriotisme, l'insécurité, la lutte contre l'islamisme, la souveraineté, un certain nombre de thèmes.
Et voilà, le général de Villiers peut-il sauver la France de la crise? Le général de Villiers qui explique que Marine Le Pen fait de beaux constats mais qu'elle n'a aucune solution. Est-ce que lui tient en vrai la solution, le général de Villiers? C'est la question que l'on vous pose. Est-ce qu'il peut sauver la France de la crise? Sur le compte Twitter de Sud Radio, pour le moment, c'est un grand non à 77%. Et le 0826 300 300, tiens, on va vous écouter tout de suite. C'est le duel des Vraies Voix.
C'est l'heure du duel.
Allez, on accueille Alain qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Mais bonsoir à vous Alain, vous allez débattre avec nos Vraies Voix. Je crois que Philippe Bilger n'est pas tout à fait d'accord avec vous. On va voir ce que pensent Jean et Yael Mellul. Favorable ou pas à la probable candidature du général de Villiers?
Probable, c'est beaucoup dire, mais enfin, moi je souhaite qu'il soit candidat en tout cas.
Ah oui, pourquoi?
Bien, pourquoi? Parce que c'est un homme de terrain, il a l'expérience et il écoute. Si vous voulez, dans l'armée, on n'est pas général d'un seul coup. Hein. Comme souvent dans le civil, on arrive tout en haut, voilà, vous n'avez aucune expérience de la base. Les officiers commencent par être sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, et après général. Et là, au fur et à mesure, on écoute le lieutenant, il écoute ses sergents, il écoute les deuxièmes classes, etc., etc. Quand le capitaine fait une réunion, il écoute ses lieutenants, et ainsi de suite. Le général, quand il fait une réunion, ben, il écoute tous ceux qui sont au-dessous de lui et il prend une décision une fois qu'il a écouté tous ses militaires.
Il y a des généraux qui sont aussi dictateurs, hein, Alain, mais bon.
Juste rappeler à Alain, qui a fait un très bon rappel des grades de l'armée de terre,
oui, c'est vrai,
juste
ouais.
qu'on, là, on commence aspirant.
Voilà, aspirant. Ouais. Philippe Bilger.
Alors, en fait... Il y a une aspiration aux militaires chez les Français, même s'ils s'en défendent. Deuxième élément, on n'oublie pas, et c'est probablement la raison essentielle du succès du général de Villiers, pour beaucoup, c'est qu'il a été le premier à dire non clairement et presque vigoureusement à Emmanuel Macron. Pour le reste, moi qui lis absolument, j'ai lu deux de ses livres et j'ai lu tous ses entretiens. D'ailleurs, je vous recommande Dans le Monde aujourd'hui une double page très remarquable sur lui, très fine et très subtile. Eh bien, je trouve qu'il enfile des banalités nobles
tout au long.
C'est arrivé sur, à d'autres politiques.
Oui, mais sur lesquels on ne peut pas véritablement être en désaccord. Je veux dire, on sent que il énonce un certain nombre de pensifs qui relèvent d'idées générales, comme s'il ne voulait à aucun moment prendre le risque d'être contredit. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a abandonné toute ambition politique. Mais j'aurais à parier, je dirais, il n'ira pas.
Alors, il dit que Marine Le Pen fait des constats et qu'elle n'a aucune solution. Pour l'instant, lui aussi ne fait que des constats, Jean Dorido.
Mais il évolue en même temps, c'est tout de même.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec... Bon, bien sûr, c'est juste un sondage, mais enfin, avec 20% de Français qui disent qu'ils voteraient pour lui, ça veut dire qu'il est au second tour.
Oui,
et ce serait quand même, en prenant les choses très sérieusement, ce serait quand même amusant.
Mais c'est pas un sondage.
Parce que ça veut dire. Non, certes. Mais enfin, bon, imaginons qu'il y ait 20%. Ouais. En plus, il propose l'ordre. Et ça plaît souvent aux seniors. Et ce sont quand même les seniors qui votent en France. Et donc, ce serait quand même amusant parce que ça fait quand même très longtemps que tous les analystes, hyper experts, nous promettent, quoi que l'on fasse, un duel. À nouveau Macron-Le Pen en 2022. Et si déjà, il pouvait y en avoir un des deux qui ne soit pas au second tour, au profit de Devilliers, écoutez, pourquoi pas.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix. On continue avec un extrait de la matinale de jeudi. Dans le petit déjeuner de l'actu, Patrick Roger et Cécile de Minibus recevaient François Saltiel, journaliste, réalisateur et producteur, venu présenter son livre « La société du sans-contact ». Un livre dans lequel il met en garde contre les dangers de l'hyperconnexion aux écrans et aux réseaux sociaux. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Bonjour. Vous êtes journaliste, réalisateur et producteur. Et vous officiez chaque jour sur le plateau de 28 minutes sur Arte. Ça s'appelle, ce livre, en tout cas, La société du sans-contact, selfie d'un monde en chute chez Flammarion.
Oui, et toute notre existence qui peut se vivre quasiment maintenant derrière un écran. Hein. L'exemple de Magali qu'on avait à l'instant est frappant. D'où vous est venue déjà l'idée en fait, de ce livre? C'est de se dire, vous-même, vous étiez concerné par ça?
Oui, moi je suis forcément un petit peu à la fois observateur et victime de nos usages du monde numérique. Cette idée, elle est née il y a plus d'un an. Moi je fais effectivement des chroniques tous les jours sur 28 minutes où j'analyse un petit peu l'impact des nouvelles technologies sur notre société. Et puis je m'étais rendu compte que quand même, sous cette promesse de l'hyperconnexion, où les GAFAM nous promettent d'être toujours plus connectés les uns des autres, il y avait une forme d'éloignement qui s'opérait paradoxalement. Mmh. Un éloignement avec la relation véritable, authentique. Vous savez, celle où on se regarde dans les yeux, l'humain. Une forme d'humanité. Et finalement, tout concourait dans ces innovations qu'on appelle le progrès, mais qui n'est pas forcément pour le mieux, à aller vers une distanciation physique et sociale. Ça, c'était bien avant la pandémie.
C'est vrai.
Si vous regardez les réseaux sociaux, c'est une magnifique manière de nous mettre tous à distance. Passer par des services comme Deliveroo, comme Amazon, c'est toujours une manière de nous mettre à distance. C'est-à-dire que leur but du jeu, c'est un peu, plus vous passez de temps chez vous, seul, derrière un écran, plus on gagne de l'argent, puisque c'est comme leur modèle économique. Donc c'est un peu isolé pour mieux régner. Est arrivée ensuite la pandémie qui n'a fait qu'accélérer finalement ce processus que j'avais déjà observé.
Patrick, c'est-à-dire qu'on ne se voit plus, mais maintenant on ne se touche plus. C'est-à-dire que tout est sans contact. C'est-à-dire qu'on ne touche même plus le terminal pour entrer son code. C'est-à-dire qu'on a créé une distance physique même quand on se voit finalement.
On a créé une distance physique même quand on se voit, mais vous remarquez que justement, le côté de on n'a pas le droit de se toucher, qui est conjoncturel, qui est lié à notre crise sanitaire, vous avez vu, tous les outils sont déjà en place. Finalement, le sans contact existait avant même cette idée qu'on ne devait plus se toucher. Là, je parle du sans contact de paiement. Et puis quand on regarde comment une ville comme San Francisco, qui est le cœur de la Silicon Valley, a réagi par rapport à cette crise sanitaire, eh bien, ils n'ont pas eu trop de problèmes, ils n'ont pas eu beaucoup de cas, parce qu'ils avaient déjà opéré finalement ce virage de la digitalisation du monde, où finalement on ne se touche pas, on ne se parle pas vraiment, et on vit chacun chez soi dans sa bulle derrière un écran. Mais regardez même comment nous vivons tous, quand on prend le métro, le train, dans n'importe quel café, et là je parle de toute la France, on est tous un peu derrière notre petit téléphone, derrière notre écran, sans se regarder, sans faire attention chacun dans son monde.
Même la poignée de main qui était amicale est devenue dangereuse.
Alors là, aujourd'hui, la poignée de main est devenue dangereuse puisque effectivement, elle peut permettre de passer le virus. Mais déjà, on sentait qu'il y avait des gens qui préféraient s'envoyer des émoticônes bisou cœur plutôt que se faire la bise, par exemple. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire la bise tout le temps, mais on avait déjà cette idée de distanciation physique et sociale avant que finalement, la situation sanitaire nous y oblige.
C'est-à-dire, c'est quoi? C'est plutôt filmer des événements plutôt que les vivre?
Bon, en tout cas, filmer des événements ou même passer par le télétravail ou passer par des cours à distance, on se rend compte que finalement, parfois, ça peut être plus économique pour celui qui est l'institution, l'entreprise, parce que Après tout, je balance un flux à des centaines, des milliers de personnes, j'arrose entre guillemets le monde entier et je me passe de cette expérience humaine. Alors qu'on sait très bien que vivre un cours en présentiel, vivre un concert en présentiel, c'est ce qui fait justement partie du plaisir de l'échange humain, parce que c'est une expérience, parce qu'on est les uns à côté des autres. Mais tout le modèle économique des GAFAM, c'est quand même qu'on passe le plus de temps possible derrière un écran, pourquoi pas chez soi, ou derrière son téléphone. Donc effectivement, pour eux, la crise sanitaire a été une magnifique opportunité d'accélérer cette philosophie.
Oui, c'est une opportunité, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure hors antenne, ça a alimenté en même temps, du coup, les thèses un peu complotistes en disant, bah, vous voyez bien, ces GAFA, c'est eux qui dominent en fait aujourd'hui le monde. Ils sont plus, et vous le dites bien dans votre livre, hein, ils sont plus puissants que certains États, en fait, aujourd'hui,
oui,
les GAFA.
Je pense que c'est un peu une réalité, hein, fait, de voir comment les GAFAM, qui en fait sont présents dans le monde entier, c'est-à-dire que traversent les frontières. Quand vous regardez par exemple Facebook, c'est 2,7 milliards d'utilisateurs, donc ça va bien plus loin que n'importe quel État, que n'importe quelle population, même la population chinoise. Donc on se rend compte que c'est énormément de monde qui peuvent être influencés aussi. C'est un magnifique outil d'influence. Il a été manipulé, hein. Ça c'est le scandale Cambridge Analytica, on l'a vu avec l'élection présidentielle de Donald Trump. Donc effectivement, ils sont quelque part plus forts que les États parce qu'ils n'ont pas de problème de frontières et surtout ils ont cette volonté de remplacer les États. Regardez par exemple
la monnaie. Est-ce que c'est une volonté ça ou pas ?
Alors écoutez, moi je me suis rendu compte que les dirigeants, enfin plusieurs dirigeants de la Silicon Valley ou des grands argentiers comme Peter Thiel, comme Elon Musk.
Alors Peter Thiel, on rappelle.
Peter Thiel, c'est le cofondateur de PayPal, qui a été un des premiers à mettre une monnaie en s'affranchissant justement de la monnaie qui était liée à la souveraineté d'un État. Donc une monnaie universelle, numérique, virtuelle et qui peut intéresser le monde entier. Puis là, ça a été un des premiers investisseurs de Facebook, ça a été un conseiller de Donald Trump et c'est quelqu'un qui est très très puissant dans la Silicon Valley. Elon Musk, c'est le patron de SpaceX. Et de Tesla. Et Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Et tous ces trois personnes et d'autres appartiennent à la philosophie libertarienne. Et la philosophie libertarienne, c'est un courant de pensée qui vise en fait à cultiver l'individualisme à tout craint et à essayer d'éliminer un État qui est jugé castrateur, qui empêche la liberté d'entreprendre. Un État finalement providence. Et l'idée, c'est justement de ne plus payer les impôts, c'est ce qu'ils font déjà, hein. Mais c'est de s'affranchir finalement des taxes, et puis d'imaginer une autre philosophie qui peut rentrer finalement en contradiction avec le modèle démocratique.
L'immortalité, par exemple.
Le transhumanisme, l'idée que finalement le peuple n'a pas à décider de tout. Tout le monde n'est pas habilité à pouvoir décider de tout, il faut que ça soit une société de technocrates un peu élitistes qui sait où... comment on peut aller et ce vers quoi il faut aller se diriger.
On l'a vu d'ailleurs avec Google City.
Exactement, Google City, c'était quand même la volonté de Google d'avoir des villes, des quartiers. Alors ils ont commencé à Toronto, où ils ont essayé de préempter des quartiers en disant, bah voilà, ça sera une ville Google. Donc on va avoir que des gens de chez Google qui vont y vivre, ou alors c'est Google qui va vous louer des appartements. Tous les services publics vont être pris en main par Google, donc ça ne sera plus des services publics. Les transports automatisés, bien sûr, la gestion même, pourquoi pas, des écoles. Donc on avait vraiment cette idée, évidemment cette zone sera détaxée, hein. Il y aura une zone de taxe particulière avec toujours une promesse pour la ville qui accueille ces quartiers-là, une promesse d'emploi et puis bien sûr d'innovation. C'est-à-dire qu'on est dans une ville intelligente, tout est connecté, tout est régulé, s'il pleut, tac, vous avez les abribus qui automatiquement se mettent en position de couverture, on régule le trafic en fonction de la météo puisqu'on est dans une logique de voiture connectée, de voiture autonome. Donc il y a vraiment cette idée d'aller chercher des espaces qui leur sont propres et c'est pas anodin d'ailleurs qu'ils soient tous lancés dans la conquête spatiale. Encore une fois, hein, Jeff Bezos, conquête spatiale, Elon Musk, conquête spatiale. Avant lui, Richard Branson, qui était le patron de Virgin et toujours libertarien. Parce que la logique, c'est aussi d'avoir une terre à soi pour, pourquoi pas, là, faire ce qu'on veut sur la vie philosophique, les règles, les lois. Il leur manque finalement, quelque part, qu'une terre.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Patrick Roger, Cécile de Minibus et leurs invités, rendez-vous lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Allez, restez avec nous, on va revenir très vite avec André Berkoff et son invité, l'historien Dimitri Casali, qui se sont intéressés aux immigrés et aux Français venus d'ailleurs. À tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Merci pour votre fidélité. Alors avant de retrouver André Berkoff dans tous ses états et son invité Dimitri Casali, on va s'écouter le dernier titre de Patrick Fiori. Le chanteur nous offre cette fois un duo avec Florent Pagny sur lequel les deux artistes rendent hommage à l'enfant qui sommeille en chacun de nous. C'est parfait pour la période de Noël. Voici J'y vais sur Sud Radio.
S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais comme un tout premier regard. Le début de mon histoire et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre d'ici jusqu'au bout du monde. Qu'importe où le temps nous porte. Traverser les mers pour embraser les terres de feu, j'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. J'y vais quand le passé me distance. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, tous nos secrets perdus dans le temps. J'y vais dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs aux reflets d'avant. J'y vais, c'est dans chacun de nous.
Dans le meilleur de Sud Radio, le dernier titre de Patrick Fiori en duo avec Florent Pagny, extrait de son nouvel album Un air de famille. Allez, on poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. Lundi, l'animateur recevait l'historien Dimitri Casali, venu présenter son livre Ce que la France doit aux Français venus d'ailleurs. Et ensemble, ils se sont intéressés aux immigrés connus et anonymes et à leur amour de la France. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Et c'est très bien qu'on reçoive Dimitri Casali, et on est toujours content de le recevoir. Mais c'est très bien parce qu'on parlait justement de l'AME, des clandestins, et il y a toute la dispute sur les immigrés, etc. Il faut bien comprendre que ce que la France doit aux Français venus d'ailleurs, et Dimitri Casali, dans son livre que je vous recommande, qui est très intéressant, qui parle de ces Français venus d'ailleurs, mais qui avaient une certaine idée de la France, qui avaient l'amour de la France, qui avaient envie non pas de la foutre en l'air, ou de ne pas s'en occuper, ou de faire sa petite soupe dans son petit pot, comme disait le général, mais vraiment de l'irriguer et de l'irriguer avec son génie. On va parler de tout cela, mais je rappellerai, peut-être c'est un exergue, Dimitri Casali, ce merveilleux mot, cette expression de Romain Gary, qui disait « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines ». Dimitri Casali, comment vous les avez choisis, ces Français venus d'ailleurs ?
Très difficile de faire une sélection, parce qu'il y en a tellement et si nombreux, donc... C'est vrai qu'il y a Joséphine Baker, bien sûr, il y a Marie Curie, les femmes d'abord, mais ensuite il y a ces personnages attachants que sont bien sûr Romain Gary, Roman Kassiev de son prénom, mais aussi Joseph Kessel, Marc Chagall, ce peintre, Moïse Chagall, hein, comme il s'appelait, ils ont tous francisé leur nom, ils n'ont pas hésité. Et bien sûr, le plus grand des poètes. Enfin, moi, c'est, quand j'ai découvert, j'ai toujours adoré Apollinaire, mais quand j'ai découvert son amour de la France, de cet immigré polonais qui, pour lui, la langue française était sa patrie. Et on voit l'importance de la langue aussi dans l'intégration aujourd'hui.
Fondamental. Wilhelm Apollinaris de Kostrovitsky,
Extraordinaire.
Apollinaire. Et puis Picasso, qui était d'accord espagnol, mais enfin qui était français aussi. Enfin, tous ces gens, Salvador Dali à sa manière.
Voilà. Et Offenbach, pour moi, quand j'ai su que le French Cancan, quand on est au Japon, à Las Vegas, le symbole de la France, c'est le French Cancan. En fait, le French Cancan, c'est l'acte d'Orphée aux Enfers, composé par Jacob, il faut lui dire son vrai prénom, Jacob Offenbach est un petit juif de Cologne arrivé en France à Paris sous le Second Empire et qui va devenir donc le musicien, un des musiciens français les plus joués au monde et le symbole de la gaieté parisienne, c'est lui. C'est encore un immigré et donc il faut quand même il faut montrer à tous ces nouveaux venus qui arrivent aujourd'hui que l'intégration à la française a fonctionné pendant plus de 150 ans et il faut s'interroger pourquoi elle ne fonctionne plus aujourd'hui.
Tout à fait. Mais justement, c'est très bien que parce qu'il y a eu 400 essais sur le fait que ça ne fonctionne plus aujourd'hui, assimilation, intégration, mais vous montrez comment ça peut fonctionner. Exactement. En montrant justement par l'exemple et c'est ça qui est très intéressant et très fort. Mais Dimitri Casali, est-ce qu'il y a, je dirais pas de médiateur commun quand même, mais est-ce qu'il y a une île rouge, est-ce que c'est quoi? Ils sont venus en France par amour de la France, parce qu'ils connaissaient déjà la culture française. Je pense à la mère de Romain Gary qui lui disait « Tu seras ambassadeur de France », etc. C'est quoi? Qu'est-ce qui les motive?
Tout à fait. C'est très important. Il faut comprendre que c'est la culture française. Comme on dit la phrase magnifique de Georges Charpak, encore un immigré, ses parents ont choisi la France parce qu'ils ont choisi ce qu'il y avait de meilleur au monde. Et la culture française était célèbre en ce temps et c'était une culture intégratrice. Georges Charpak ajoute, je suis devenu français grâce à ma formation intellectuelle. Et ça, on retrouve toujours dans tous ces personnages, c'est l'éducation, pareil, Apollinaire, c'était l'école, le lycée Masséna, il était au lycée à Nice. Et ensuite, Joséphine Baker, quand elle arrive en France, elle est subjuguée par la culture française et la musique et puis aussi, elle va jouer un grand rôle pendant la résistance.
Mon pays et Paris.
Et elle a cette phrase magique, elle dit c'est la France qui m'a faite.
C'est formidable.
Elle naît véritablement en France parce que, comme tout le monde le sait, les États-Unis, avec la ségrégation raciale en 1925, c'est tragique. Et quand elle arrive à Paris, elle dit Paris est le paradis des Noirs. Il faut bien comprendre, et pareil pour Blaise Diané, le premier député sénégalais à entrer, le premier député français à l'époque, au Palais Bourbon en 1914. On sent qu'ils sont français par leur formation intellectuelle, par leur éducation. Et ensuite, ils ont tous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette volonté de servir la France. Alors qu'aujourd'hui...
La France m'a donné beaucoup de choses, je vais lui rendre.
Je vais lui rendre, exactement. Alors qu'aujourd'hui...
C'est vraiment ça qui les motive.
Voilà, on n'a plus vraiment l'impression que les nouveaux émigrés veulent servir la France. Ouais. C'est ça le grand problème aujourd'hui.
Et en fait, vous dites ça, est-ce qu'en général, alors, c'est cette culture française, parce que c'est très intéressant, vous en parlez, et ils l'ont eu quand même, ou leurs parents, dans les pays d'origine. Donc, en fait, la France, à l'époque, était prégnante de façon beaucoup plus importante qu'aujourd'hui.
On le sent très bien avec Moïse Chagall, qui est né en Russie, qui est juif, mais de vitesse, bien sûr, qui est fier de ses origines juives, bien sûr, mais il a cette phrase aussi extraordinaire, il dit « Je suis devenu français au Louvre, devant l'étoile de Manet et de Monet. » Et on voit bien... Et là, j'ai oublié mes racines russes, parce qu'il était conscient de ses racines russes, pour épouser pleinement la France. Et ce qui est magique avec tous ces grands personnages, on le sent donc particulièrement avec Chagall, ils vont souffrir de l'antisémitisme, du racisme, mais au bout du compte, c'est cet amour qui déborde pour la France plus que le mal qu'il y a toujours, il y a des idiots partout, et il y en avait bien beaucoup sûr. À l'époque. Et lui, il va mettre, Chagall va mettre 10 ans à obtenir la nationalité française. Hein. Il a demandé en 1927, il obtient en 1937. Vous vous rendez compte ? Parce qu'il y avait des tracasseries administratives, parce qu'aux préfectures, il y avait certains antisémites, bien sûr, et il a dû...
Mais la grande différence aussi par rapport à aujourd'hui, hein, que le fond, ne généralisons pas par rapport à aujourd'hui, mais aujourd'hui, on voit, vous savez, les minorités, je suis victime, victimaire, je suis colonisé, je suis ceci, et puis voilà, et puis vous avez eu les quotas, les discriminations. Ben, à l'époque, il n'y avait ni quotas, ni discrimination, et ils s'affirmaient, et ils devenaient ce qu'ils sont. Quoi.
Par le mérite. C'est ça, être France.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h sur Sud Radio. Allez, je vous propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de jeudi de Valérie Expert. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses débatteurs sont revenus notamment sur la série Netflix de Dominique Strauss-Kahn qui suscite déjà une vive polémique. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer, je ne sais pas, avec Nathalie qui a un coup de gueule. J'ai vu passer ça sur Internet. Nathalie Cohen.
Oui, il y a un graphiste designer en Suisse qui a inventé un alphabet épicène. Donc l'alphabet épicène, c'est pour amener de l'eau au moulin à l'écriture inclusive. Je trouve ça complètement surréaliste. On entend son discours. Alors, au début, c'est plein de bonnes intentions. Il explique qu'il y a des gens aujourd'hui dans la société qui sont mis de côté. Donc, je présume qu'il parle des personnes qui sont transgenres et qui sont non définies, non binaires, ce qu'on appelle non binaires aujourd'hui. Mais c'est juste incroyable. Si jamais on devait mettre ça en place, on l'a vu avec l'écriture inclusive, c'est extrêmement compliqué. La France a refusé, donc effectivement... De rentrer dans le jeu de l'écriture inclusive, et je suis d'avis qu'on envoie ce monsieur designer de talent certainement proposer son alphabet à un grand marchand de pâtes pour pouvoir en faire quelque chose d'alimentaire plus que de quelque chose qu'on puisse utiliser dans la
vie. C'est assez joli, mais c'est vrai que le E rentre dans le mot. Je ne sais pas si vous avez vu ça les uns et les autres, mais c'est très compliqué.
Bah, moi, je trouve que ça part d'un principe qui me paraît être un principe presque de justice, d'évolution normale de la société, de la langue française, de manière générale. C'est presque même, je trouve, désobligeant. Ça relève presque de la fainéantise intellectuelle de se dire qu'on ne peut pas faire évoluer notre vocabulaire, notre littérature, notre manière d'écrire. C'est, au contraire, le X et le SE s'entrelacent. C'est plutôt lisible, c'est plutôt poétique, c'est même très graphique. Le « il » et le « elle » devient « yel ». Tout ça répond à une forme de doctrine qui est la nôtre de la langue française, qui est pourquoi le masculin emporterait sur féminin.
Je pense c'est que un autre, c'est pas un masculin.
Réfléchir à cette question me paraît relever de
c'est
de,
un autre.
Pierre Jacquemin, c'est un coup de gueule. Vous vouliez revenir sur la série qui est diffusée sur Netflix à propos de Dominique Strauss-Kahn.
Oui, j'ai fini la série hier soir. C'est assez court, hein. C'est en 4 épisodes. C'est une série qui a été réalisée par le français Jalil Lesper, qui est plutôt bien faite, mais qui franchement nous donne des hauts le cœur assez régulièrement. Et je suis désolé pour le camarade socialiste qui est présent ici parmi nous, Pierre Jouvet, mais c'est vrai que j'ai été stupéfait, voire choqué, de me souvenir des réactions des socialistes à l'époque où l'affaire DSK explose, et de voir comment les socialistes n'ont même pas une seule pensée pour la victime présumée, en tout cas, qui est Nafissatou Diallo, la femme de chambre, et vont tout de suite avoir des propos qui sont de l'ordre, mais non, mais il n'est pas comme ça, ça ne lui ressemble pas. Raphaël Baquet, d'ailleurs, la journaliste du Monde, qui est beaucoup interviewée dans ce documentaire, le relève aussi. Elle dit que c'est très étonnant que les socialistes font bloc derrière DSK, parce qu'il est le candidat et surtout celui qui peut déloger Sarkozy à l'époque. Mais surtout, la palme, franchement, moi, j'ai été écœuré, vraiment, le mot est faible, même, par un propos de Jack Lang qui, juste après une intervention, d'ailleurs, le montage est assez bien fait en ce sens, Jack Lang qui dit à propos de DSK, l'amour n'est pas un complot du diable, l'amour appartient aux êtres humains, il est peut-être plus spécialement, lui en l'occurrence DSK, porté vers la chose de l'amour, et alors, dit-il, un président de la République doit être un homme sans sensualité, point d'interrogation. Le mec, DSK en l'occurrence, est accusé de crime d'agression sexuelle, et lui, il nous parle de sensualité. Il n'est pas jugé pour trop plein de sensualité, il est jugé pour agression sexuelle. Donc je me dis qu'il y a un monde qui sépare quand même, qui nous sépare de ce moment-là, mais les interviewer, en l'occurrence Jack Lang, ça date d'il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, donc je me dis qu'il y a encore du boulot à faire. Et je sais que dans la famille socialiste, notamment quelqu'un comme Elisabeth Guigou, qui a été aussi beaucoup interviewée, a tenu des propos qui allaient dans le sens des autres, disant que ce n'était pas du tout la nature de DSK. Mais suite à l'affaire du Carlton, elle a bien reconnu, elle a bien fallu reconnaître qu'il y avait des pratiques qui étaient celles de DSK qui étaient quand même condamnables, et elle le dit à la fin. Donc on sent que les choses évoluent, mais je vous invite vraiment à voir ce documentaire, mais vous n'allez pas être déçus, avec parfois de haut le cœur.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans une poignée de minutes avec la chronique de Cédric Cizère qui a répondu, comme d'habitude, à vos nombreux messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Avant de retrouver la chronique de Cédric Cizère, on va s'écouter le dernier titre de Patrick Bruel. 2 ans après son dernier album, le chanteur dévoile une nouvelle version du morceau Le Fil, incluse dans son tout nouvel album live sorti le 4 décembre dernier. Une version bien plus rythmée que l'original que je vous propose d'écouter tout de suite.
Dire qu'hier encore, j'ai vu grandir ton petit corps qui veut s'enfuir. Dès qu'il a tort, moi qui t'ai appris à tenir sur tes deux guiboles, tu me voyais comme une idole. Mais aujourd'hui, j'avoue, tu m'étonnes, tu me défies, t'en fais des tonnes, tu joues à l'homme. Car moi, je me sens dépassé par les événements dans ma mémoire, t'es qu'un enfant. Ne perds pas le fil, entre nous c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas. Perds pas le fil, entre nous c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Que l'on s'engueule dans cette épreuve, les parents seuls font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. Oui, ne t'en fais pas, ton père aussi fait des folies, tu en feras, tu verras. Encore une année, tu seras plus fort que moi, plus élancé. Regarde-toi dans le grand miroir qui aura vu passer l'histoire de nos débuts à ton départ. Ne perds pas le fil, entre nous c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas. Perds pas le fil, entre nous c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi. Tu sais, je ne te le dis pas. Perds pas le fil, entre nous c'est si fragile, si délicat. Mais sache que je suis tellement, tellement fier de toi. Tellement fier de toi.
Dans le meilleur de Sud Radio, dernier titre de Patrick Bruel qui sera, notez bien, l'invité d'Yvan Cujus dans le Loft Music le 5 janvier à 20h. Allez, on va terminer en humour avec la chronique de Cédric Cizère. Mardi, il a répondu comme toujours à vos nombreux messages laissés sur le répondeur de Sud Radio avec un message inédit laissé par Patrick Sébastien venu vous parler de son nouvel album. L'occasion pour Cédric Cizère d'avouer à quel point il est fan de l'ancien animateur. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Bonjour Cédric Cizère, comment ça va ?
Bonjour mes chers compatriotes. Nous sommes le mardi 8 décembre, c'est l'anniversaire de la plus grande star internationale de l'univers.
Ouais.
Gérard Holtz,
ah,
74
happy
ans.
Birthday to you,
Gérard Holtz, quand même, c'était votre sexe symbole, j'imagine, quand vous étiez plus jeune.
Absolument, l'un de mes sexes symboles.
J'en étais sûr. Gérard. Eh bien sûr, alors justement, je vais vous parler d'une dame de 73 ans
oui.
qui a été condamnée par le tribunal de Vesoul à payer une amende majorée de 166 euros pour s'être trompée de date sur son attestation lors du premier confinement.
Ah.
Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça honteux. Ouais, c'est honteux de même pas être capable de mettre la bonne date sur une attestation. Ouais. Franchement, c'est scandaleux. Alors, la police et le policier qui a constaté l'infraction a tenu à nous laisser un message.
D'accord.
Bonjour, Gérard Castagueul, sous-officier de Vesoul dans les Pyrénées-Asiatiques. Ah oui. Alors, Alzheimer ou pas Alzheimer, c'est pas mon problème. Hein. Faut mettre la bonne date, point barre. Oui. Là, par exemple, je viens de choper un chauffard sur l'autoroute à 250 à l'heure. Oui. Ah. Je peux vous dire qu'on lui a confisqué immédiatement son véhicule. Ah mais je me fous, il rentrera chez lui sans son fauteuil roulant. Hein.
Ah ouais.
Ah mais la police, ils rigolent pas. Ça me fait plaisir.
Binaire.
Mais bien sûr. Alors heureusement, le tollé provoqué par cette histoire a fait que la dame atteinte d'Alzheimer, elle a été finalement dispensée de peine et de frais de justice, et ça me fait plaisir.
Ça c'est bien. Ouais.
Voilà, tout le monde a été.
Quand même, elle est allée devant le tribunal.
Mais c'est un truc de fou parce que le tribunal a validé.
Ouais, on a parlé hier, effectivement, c'était assez incroyable.
Et tout le monde était très énervé, donc ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on a tous des amis atteints par cette maladie d'Alzheimer. Bah oui, à chaque fois que vous prêtez de l'argent à un pote, il se rappelle jamais qu'il doit vous rembourser.
Oui,
ça c'est fou quand même. Cécile, je m'en rappelle. J'attends toujours vos 40 centimes à la machine à café il y a 3 ans. J'attends, mais bon,
ah
voilà.
Ah, maintenant vous le dites.
40
peut-être.
Centimes Ben oui, je sais.
Crois que c'est vous qui me les devez.
Ah, pardon, excusez-moi, ça me fait trop de le budget. Alors, moi, j'ai malheureusement plusieurs cas d'Alzheimer dans ma famille, mais Dieu soit loué. Je ne suis pas atteint, voilà, par ces symptômes de perte de mémoire, je suis à l'abri. Bonjour mes chers compatriotes, nous sommes le mardi 8 décembre et c'est l'anniversaire de la plus grande star internationale.
Non, mais ça vous l'avez déjà dit en fait.
Ah ouais?
Ouais, depuis le début.
Excusez-moi, alors ça commence à arriver, excusez-moi. Je commence à vieillir.
Voilà,
bon alors, je sais pas vous, mais pour moi, l'événement musical de cette fin d'année, c'est le nouveau disque du seul héritier de Brassens, Léo Ferré ou encore Baudelaire. Il s'agit de... Patrick Sébastien, bien sûr.
Son
nouvel album est sorti
loin,
vendredi. Mais non, c'est sorti vendredi, j'écoute que ça. Ça s'appelle Sébastien se lâche. Et mon Patrick, il nous a laissé un message. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Patrick Sébastien sur Fugue Radio, comme moi. Écoutons Patrick.
Mais comment tu vas, mon Cédric, putain?
Ça va.
Je suis content que t'aies écouté mon disque. J'ai un disque qui, j'espère, va toucher tout le monde. Et surtout un disque sur lequel tout le monde va se toucher.
Non,
excuse-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de faire un karaoké-quête. C'est comme un karaoké, mais on chante pas dans le micro, on chante dans sa quéquette.
Ah ouais.
Oh putain, c'est énorme, putain. Et Nana, viens chanter dans ma quéquette.
Ah, j'espère qu'on fera un karaoké-quête tous les trois.
Non.
Ça vous intéresse pas?
Pas maintenant, en tout cas.
Bah, en tout cas, ce soir, peut-être. Alors, vous le savez, chaque nouvelle chanson de mon Patrick Sébastien, c'est une ode à la vie.
Ouais.
Voilà, souvenez-vous des chansons philosophiques comme Je mastique,
oui.
La béquille, ou encore Une petite pipe, hurrah. Vous rappelez de ça, Patrick? Une petite pipe, hurrah. C'était magnifique. Et il y a un titre dans son nouvel album que j'ai adoré, qui est un vrai hymne à l'épicurisme et un soutien au monde de la culture, parce que c'est vrai que la culture souffre en ce moment.
C'est vrai, c'est vrai.
Cette chanson s'appelle Vive le culturel.
Vive le culturel. Et vive le cul, et vive le turel, et vive le cul, et vive le cul, et vive le culturel, et vive le cul, vive le cul.
Ça met de l'ambiance de
matin. Juste après Ségolène Royal, moi je trouve ça génial.
Ah ouais, bah dis donc, ouais.
Ça fait plaisir. Non mais le culturel, vive le culturel.
C'est vrai.
Bravo Patrick, tu es un génie. Voilà de quoi mettre l'ambiance le 24 décembre à minuit à la place de la messe, puisqu'on pourra pas y aller. Mais ça fait plaisir. Patrick, c'est quoi le titre de la chanson? Vous pouvez me le chanter un petit coup?
Non, on l'a entendu. On va le remettre en boucle si vous voulez tout à l'heure.
À la fois.
Déjà, il fait pas beau, donc
n'insistons pas. C'est vrai. Bon, alors à Agde, puisque je sais que vous allez très souvent à Agde, Patrick, cambrioleurs ont pénétré chez une dame de 80 ans pour la voler. Vous avez entendu cette histoire?
Absolument.
Manque de bol, la vieille dame, elle était ceinture noire de karaté.
C'est ballot.
Donc, elle a mis un gros coup de genou dans les testicules d'un des malfaiteurs et ils se sont tous enfuis. Ils ont eu peur d'elle. Alors, l'octogénaire a voulu me laisser un message et coïncidence, on la connaît très bien. C'est un truc de fou. Mais oui.
Salut les potos, c'est Henriette du Mans. Alors oui, c'est Wham qui a défoncé la race des cums qui ont voulu me voler mon magnétoscope tout neuf et mon intégrale de Vincent Niclot.
Ouais.
Je leur ai mis un mawashigiri dans les knacky balls.
Ouais.
Ça m'a fait du bien. Les dernières que j'avais touchées, c'était celles de Patoche la Galoche. Elles me manquent d'ailleurs. Je vous kiffe les frérots.
Eh ben on vous embrasse Henriette.
Vos knacky balls manquent à Henriette
Dumont.
Écoutez, en tout cas ça fait plaisir.
Il parlait de ses doigts bien sûr.
Évidemment. Alors c'est la double peine pour le jeune cambrioleur. Déjà, vu le coup de genou qui s'est pris dans les testicules, il ne pourra plus jamais avoir d'enfant, le pauvre. Bon ça c'est plutôt une chance de ne pas avoir d'enfant, hein, comme ça beaucoup moins de dépenses. Mais surtout, arriver en prison ça va être la honte. Tu t'es fait choper comment, toi, pendant le cambriolage? Le RAID, le BAC, le GIGN? Bah non, je me suis fait défoncer par une vieille de 80 ans. Ah, c'est un peu la honte. Oui, mais c'était la mère de Teddy Riner. Bon, ça va, alors, ça va. Bon, alors, lui aussi, quand on le voit, on a l'impression qu'il a 80 ans, mais vous savez quel âge il a, Jean Castex?
Non.
Vous savez pas quel âge il a?
Bah, il a 55, non?
55 ans. Il en fait 25 de plus.
Bah non.
C'est bien
ça, c'est le poids.
C'est la déformation de la télévision.
La charge de la
France. C'est toute la masse de travail qui fait ça. Non, alors Noël arrive à grands pas et il n'a de cesse de répéter qu'il ne faudra pas être plus de 6 à table, vous le savez. Et donc, il a voulu s'adresser à nous pour apporter quelques précisions. On fonce à l'Élysée.
«
française français, le gouvernement vous rappelle que vous ne pourrez pas être plus de 6 personnes pendant les repas de la Noël.
Oui.
Si par malheur vous avez une famille de 7, vous allez devoir éliminer celui que vous aimez le moins. Ah. Et il restera tout seul, comme Nicolas Dupont-Aignan, à chacun de ses meetings.
Oh, bah, dis donc, c'est engagé, ça.
Bah, oui, mais il n'est pas content. Hein. Je crois qu'ils ne s'aiment pas trop tous les deux. Je ne sais pas. À mon avis, bah, écoutez, je vais faire attention. Il va falloir donc choisir. Comme dans Koh-Lanta. Voilà. Tu dégages, tu rentres chez toi.
Bah, il y a Shifumi ou la courte paille.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Cédric Cizer qui vous fait rire du lundi au mercredi à 8h20 dans le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Merci à tous d'avoir été avec nous dans le meilleur de Sud Radio. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Soyez au rendez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellent week-end à tous sur Sud Radio.